Bonjour à tout le monde. On va continuer notre lecture du livre des rois. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des chapitres 5 à 7 et du temple. Et des chapitres évidemment que vous avez lus chez vous et bien préparés pour aujourd'hui. Donc je commence par une interrogation surprise, n'est-ce pas, sur les longueurs, les détails. Non ? Non, bon, peut-être pas alors. On va faire plus simple. Et je vais en fait parler de ces trois chapitres où on voit Salomon, dont on a parlé la semaine dernière, hein, le roi Salomon, qui organise les ressources, mobilise la main-d'œuvre, construit le temple, donc la maison de l'Éternel, et puis ensuite ses propres palais. Et dans tous ces chapitres, si vous avez lu, vous avez vu qu'il y a abondance de détails sur les matériaux que les artisans utilisent. Il y a des détails sur les dimensions, dimensions du temple, les dimensions de la maison, du palais de Salomon. Il y a des choses sur les piliers devant le temple, la mer d'airain, on en parlera aussi. Donc beaucoup de détails architecturaux et d'ornementation autour du temple. Mais je vais pas me focaliser là-dessus. Parce que il me semble que dans la parole, évidemment, ce qui est important, c'est les questions que cela nous pose. Et je m'intéresserai à la façon dont ces chapitres nous parlent de Dieu, la façon dont ces chapitres nous parlent de l'humanité, et puis la façon dont ils annoncent aussi Jésus-Christ. Alors, voilà, on va commencer par un rappel. Donc je vais juste faire une vue d'ensemble des trois chapitres. Et puis ensuite, je rentrerai plus dans ce que je viens de vous annoncer. Donc, un bref rappel sur ce qui se passe au chapitre 5. Ça commence par l'alliance entre Salomon et puis le roi de Tyr, qui s'appelle Hiram, et la façon dont Salomon trouve à la fois les ressources en hommes, donc 30 000 hommes qui sont envoyés au Liban, des porteurs, des tailleurs de pierre aussi, qui mobilisent toute cette main-d'œuvre. Et puis, avec Hiram, il va aussi trouver les matières premières pour construire le temple. Et ces chapitres nous parlent déjà un petit peu de la façon dont finalement, au-delà des limites du peuple d'Israël, il y a déjà des nations qui s'associent à la construction du temple, qui vont à Jérusalem. Ça annonce ce qu'on a ensuite dans le livre d'Ésaïe, les nations qui viennent pour adorer à Jérusalem. Et puis les ouvriers nombreux, ça nous parle du service du Seigneur, et on dira quelques mots tout à l'heure, du sacrifice que ça demande d'être au service du Seigneur, de l'engagement dans ce service, mais aussi dans l'ordre que Dieu y met. Ensuite, il y a le chapitre 6 qui rentre plus dans les détails de la construction du temple avec ses dimensions. On a une date de départ, la quatrième année du règne de Salomon, les dimensions, le décor intérieur avec le bois de cèdre, les sculptures des chérubins, les palmes, les fleurs, etc. Et puis, il y a un moment, au milieu de ce chapitre, où Dieu parle. Et ça sera le passage que j'ai choisi. Vous savez, on a dit à chaque fois, on essaierait de choisir un passage clé. Je vais m'intéresser un petit peu à ces paroles de Dieu dans ce chapitre 6. Mais pour dire quelques mots d'abord, très généralement, sur pourquoi on a ces dimensions harmonieuses. Pourquoi on nous parle d'un chantier aussi qui est silencieux? On nous dit on n'entend pas les coups de marteau, on n'entend pas les haches, les instruments, etc. Ça nous parle du fait que, dans ce chapitre, que Dieu, toujours, veut que ce chantier se fasse dans le respect, dans un certain silence qui est peut-être un silence sacré. Et puis, ça nous dit aussi que Dieu agit de manière souveraine et de manière paisible dans la façon dont ce temple est construit. Et on verra que la façon dont Dieu parle au milieu montre que ce qui est important, c'est évidemment pas tous ces détails sur la façon dont le temple est construit, mais bien la présence de Dieu. C'est le fait que Dieu soit présent qui est important. Je vous ai mis quelques images en 3D, des dimensions. Alors là, c'est sans le portique ici, puis ensuite avec le portique, et puis les colonnes. Bon. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste des illustrations. Vous aurez le PowerPoint, vous pouvez regarder ça chez vous. C'est une autre illustration avec des détails supplémentaires qui sont donnés dans le livre des Chroniques, où on dit que finalement peut-être que le portique était un peu plus haut. Ça c'est pour votre considération personnelle. Et puis je vous ai aussi inclus des plans si ça, voilà, si vous voulez plus avoir une représentation des différents lieux dans le temple. Et ça, pareil, vous aurez plus de temps à la maison pour l'étudier. Et le chapitre 7 nous parle à nouveau de détails architecturaux, mais cette fois-ci, on a la construction de la maison de Salomon lui-même, de son palais. Il prend 13 ans pour construire son palais, et on parlera un peu de ses durées aussi de temps de construction. Et puis, des détails sur les piliers, la mer, les bases, les ustensiles pour le service. Et j'utiliserai ce chapitre 7 aussi pour faire un contraste entre l'opulence royale et la façon dont ça contredit peut-être un petit peu le service que Dieu voulait dans son temple. Les colonnes, bon, je rentrerai pas, je n'ai pas le temps de parler trop de ces deux colonnes, Yakin et Boaz, mais qui nous parlent quand même de l'affermissement, puisque Yakin, ça veut dire il établira, et puis de la force, puisque Boaz, ça renvoie à ça veut dire en lui la force, et ça montre que Dieu veut que ce temple soit solide et procure la stabilité pour son peuple par sa présence. Et puis, je dirais quelques mots quand même des ustensiles de la mer de bronze ou la mer d'airain, qui sont là avec beaucoup de détails pour nous montrer comment ce sanctuaire terrestre reflète le sanctuaire céleste. Et encore une fois, que le culte est ordonné, il est codifié et qu'il est centré. Et c'est le sens de cette mer qui est là pour la purification, en fait, à l'entrée du temple, centré sur la sainteté. Et la purification, puisqu'on faisait des ablutions dans ce qu'on appelle donc la mer de fonte ou la mer des reins. Donc il y a bien cette idée de purification aussi au moment où on entre dans la présence de Dieu. Mais voilà, on n'aura pas le temps de traiter tous ces détails. Ça, c'est un simple aperçu de ces trois chapitres. Et maintenant, je vous disais, je vais traiter ces trois chapitres ensemble avec trois axes principaux. D'abord, l'axe par rapport à Dieu, le fait que ce temple, c'est d'abord le temple de Dieu. Ensuite, la perspective sur ce que ces trois chapitres nous disent de l'humanité. Et pourquoi ce temple qui est fait de main d'homme, en fait, nous dit aussi quelque chose. Et puis, comment l'attitude des humains dans ces trois chapitres nous dit quelque chose de notre humanité, la façon dont on répond à l'appel de Dieu. Et puis, on finira sur une considération de ce temple comme prophétique, et la façon dont cette promesse, cette prophétie qu'est le temple, a été accomplie, en particulier donc en Jésus-Christ. Donc je commencerai par le temple de Dieu, et comment ce temple est d'abord et avant tout le temple que Dieu a voulu. C'est pas l'idée de Salomon. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement dans la parole. C'est vraiment la volonté de Dieu que ce temple soit construit. Et c'est quelque chose que Dieu avait déjà promis à David et avait annoncé à David. Et quand on prend au chapitre 5, et au tout début du chapitre 5, la façon dont Salomon s'adresse à Hiram, donc le roi de Tyr, il lui dit « Tu sais, quant à David, mon père, qu'il ne put bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, son Dieu, à cause de la guerre dont ses ennemis l'entourèrent, jusqu'à ce que l'Éternel l'ait mis sous la plante de ses pieds. » Et donc, il y a bien cette référence dans la bouche même de Salomon à cette promesse qui a été faite à David. Et ça nous renvoie à ces versets qui sont dans le deuxième livre de Samuel, où Dieu avait dit à David qu'il y aurait une maison à mon nom. Donc, Dieu dit voilà, il y aura un temple qui sera construit, et c'est associé à la promesse d'un royaume qui durera pour toujours. Et donc la promesse qui a été faite à David ici s'accomplit avec Salomon. Et c'est bien Dieu qui conçoit ce temple. Il le conçoit d'une façon particulière. Et ce qui m'a marqué, c'est que il y a beaucoup de précisions chronologiques dans ce chapitre, dans ces chapitres. Là, on a au tout début du chapitre 6, il arriva en la 480e année après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, en la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Donc on a une précision extrême sur le moment du début de la construction. Et pour moi, ça veut dire que ce projet s'inscrit dans une histoire, et vous savez, c'était quelque chose que Joël avait précisé dans l'introduction. Il y a à la fois une grande histoire rédemptrice qui traverse les siècles, et puis il y a l'histoire humaine dans laquelle, voilà, qui s'imbrique en fait dans ce grand plan de Dieu. Et Dieu fonctionne aussi dans l'histoire, et on a des précisions par rapport à notre histoire humaine. Ce qui montre que Dieu a voulu que ça s'inscrive, voilà, dans l'histoire de son peuple, et puis qu'il a fait des promesses des dizaines d'années avant, et que ces promesses finissent par s'accomplir et elles arrivent à leur terme. Et Dieu accomplit ses projets. Et si Dieu les a accomplis en ce qui concerne la construction du temple, ça veut dire qu'il va accomplir aussi ses projets en ce qui nous concerne et en ce qu'il nous dit à nous, qu'il va nous arriver des choses. Ben, voilà, Dieu accomplit ses promesses. Il est capable, il le fait. Et notre histoire, comme l'histoire du peuple d'Israël, elle a un sens pour lui et il prend part à cette histoire. Et puis, Dieu, il utilise aussi les circonstances et il crée les circonstances favorables à ce que le temple puisse être construit. La paix avec Tyr, l'ennemi qui était l'ennemi d'Israël, le fait que le peuple puisse avoir accès aux matériaux, le fait qu'il y ait des artisans qualifiés qui puissent participer à la construction. Eh bien, tout ça montre que voilà, Dieu peut utiliser les circonstances temporelles pour construire son plan, et un plan qui va au-delà de ces circonstances, puisqu'il y a une signification pour l'éternité. Donc sa grâce, elle passe finalement par des moyens, des faits qui sont matériels, qui sont bien tangibles. Mais ce que je retiens surtout, c'est la façon dont Dieu veut être présent. La construction du temple, et ça revient très souvent dans les chapitres qu'on étudie aujourd'hui, c'est vraiment le signe de la volonté de Dieu d'être présent au milieu d'Israël. Et ça résonne avec la construction du tabernacle dans l'Exode. Et ici, je vous ai remis une image du tabernacle dans le désert, avec Dieu qui voulait déjà être présent parmi son peuple, même quand il était en train de se déplacer. Et Dieu avait dit, ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux dans l'Exode. Et là, dans la construction du temple, c'est la même idée. Le fait que Dieu veut être bien présent au milieu de son peuple. Alors, j'en viens à ce passage que je voulais étudier avec plus de détails, qui sont en fait trois versets qu'on trouve dans le chapitre 6, à partir du verset 11. La parole de l'Éternel vint à Salomon, disant « Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts et que tu pratiques mes ordonnances et que tu gardes tous mes commandements pour y marcher, j'accomplirai à ton égard ma parole que j'ai dite à David, ton père, et je demeurerai au milieu des fils d'Israël, et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Voilà trois versets de Dieu qui parle à Salomon, qui parle au roi, qui vient lui dire quelques mots au milieu de ces chapitres de longues descriptions sur la construction du temple. Alors, si on regarde en particulier le chapitre 6, ces quelques versets arrivent après une description architecturale. Ensuite, il y a les versets de l'oracle de Dieu qui parle. Et puis, la construction reprend. Alors, c'est une construction en chiasme, hein, on pourrait dire. Une belle construction, en tout cas pour ce chapitre, mais qui a un sens très fort, une signification très forte par rapport à ce que Dieu veut dans la construction de ce temple. Et le fait qu'il y ait ces paroles au milieu, ça montre que c'est un pivot dans l'interprétation que l'on peut faire de cette construction. Il veut que sa parole soit vraiment au milieu, et ça nous... Enfin, en tout cas, ça m'évoque le fait que la construction matérielle, tous ces plans d'architecture, ça ne peut se comprendre que si on a cette parole de Dieu qui vient les éclairer. Et Dieu parle ici de son alliance avec le peuple. Et la splendeur matérielle du temple, tous les détails qu'on a, finalement, ce ne sont que des signes et non la fin. Ce n'est pas l'aboutissement. Le temple n'est pas le but ultime. Ce qui est vraiment important, c'est ce que Dieu veut en tant qu'alliance avec son peuple. Et donc d'avoir ces quelques versets, ça attire l'attention sur l'importance de la façon dont Dieu parle et de ce qu'il veut réellement par rapport à voilà, ces projets de construction. Alors la formule que je viens de lire, hein, la façon dont Dieu parle, ça nous parle d'abord de... Bah, c'est une référence avec une... D'abord, il y a un rappel, on va dire, de la promesse qui a été faite à David. Hein, « J'accomplirai à ton égard ma parole que j'ai dite à David, ton père. » Donc ça montre que, encore une fois, hein, que ce projet de bâtir s'inscrit bien dans une histoire longue, dans l'histoire de l'Alliance. Et puis, il y a trois conditions, on va dire, plutôt que des injonctions, mais trois conditions qui sont données. Si tu marches dans mes statuts, que si tu pratiques mes ordonnances, et si tu gardes mes commandements pour y marcher. Et ces trois injonctions sont suivies d'une promesse. Et ça nous montre l'importance pour Dieu, d'abord, de la fidélité. Fidélité à ce que Dieu veut, fidélité dans le culte, fidélité à la loi. Voilà, si tu marches dans mes statuts, si tu pratiques mes ordonnances, Dieu renvoie à cette loi qu'il a donnée et il rappelle l'importance de cette loi, l'importance d'une conduite morale qui soit droite, hein, de pratiquer, de mettre en pratique ce que Dieu veut. Rien ne sert d'écouter la parole si on ne la met pas en pratique, on a chanté tout à l'heure. Eh bien voilà, c'est ce que Dieu nous dit. Qu'il faut mettre en pratique sa loi, une fidélité quotidienne, et puis de garder, voilà, garder les commandements pour y marcher. Et à ces trois conditions répondent la deuxième partie, hein, l'apodose, la promesse qui est d'habiter. Dieu promet qu'il habitera au milieu du peuple. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël. Et le verbe ici de demeurer, d'habiter, c'est un verbe qui est central. C'est un verbe en hébreu qui a été utilisé pour désigner aussi la façon dont Dieu est présent, y compris dans le désert, la Shekinah, vous savez, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Eh bien, c'est le même verbe qui est utilisé ici, le fait que Dieu est vraiment en train d'habiter au milieu du peuple, comme il l'avait promis dans l'Exode, quand les Hébreux se déplaçaient dans le désert. C'est le même vocabulaire qui est utilisé. Et c'est très important... parce que non seulement ça nous remet dans la tradition du tabernacle, mais ça nous montre que Dieu a vraiment envie d'être au milieu de ceux qu'il a choisis. Et il y a une continuité entre la façon dont Dieu a parlé à Moïse et la façon dont là, il parle au peuple d'Israël, une fois arrivé dans la terre promise et enfin, au moment où le temple est construit. Alors, je me posais la question aussi par rapport à cette promesse qui est faite à David et la façon dont David est mis comme exemple, hein, en disant voilà, j'accomplirai la parole que j'ai dite à David. Et pourquoi David est si important ici, alors qu'on sait que ça a été un peu ambigu quand même de cette vie de David et pourquoi finalement on ne passe pas à autre chose, pourquoi Salomon ne serait pas pris comme le nouvel étalon et pas de retourner toujours vers cette promesse davidique. Et moi, ça m'a touché parce que je me dis, ben, finalement, ce que Dieu va retenir de cette histoire avec David, c'est qu'il lui a fait des promesses et que finalement, fondamentalement, David a été retenu comme étant fidèle et comme ayant avancé quand même avec Dieu. Et malgré sa biographie qui est loin d'être sans faute, eh bien on ne l'a pas oublié. On ne tourne pas complètement la page. Et les promesses qui lui ont été faites, elles seront accomplies en Salomon. Et puis, par rapport à cette formule conditionnelle, ça peut interroger un petit peu. Si tu marches, si tu pratiques, si tu gardes, alors je demeurerai. Et on se dit, mais pourquoi ces conditions ? Pourquoi Dieu parle-t-il comme ça ? Sachant que c'est une formule qui est reprise un peu plus loin, alors c'est en dehors des chapitres que je traite aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on retrouve au chapitre 9, donc toujours dans le même livre, hein, Livre des Rois, au chapitre 9, versets 4 et 5, hein, Dieu redit, « Si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, comme a marché David ton père, d'un cœur parfait et en droiture pour faire tout ce que je t'ai commandé. Et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à toujours, comme j'ai parlé à David ton père. » On voit que cette façon de parler, ces conditions, elles reviennent. Et on a exactement la même promesse après la dédicace du temple. Donc la fidélité, c'est la condition du maintien de la présence de Dieu. Et l'infidélité semble avoir des conséquences quant à la présence de Dieu parmi son peuple. Et ça nous rappelle un certain nombre de formules dans le Deutéronome, où Dieu parle déjà comme ça, en disant, si tu fais ci, si tu fais ça, alors je serai là, alors je serai présent, alors je... Voilà, Dieu s'engage, mais met bien cette condition. Il y a une promesse, mais elle n'est effective que dans une dynamique qui est celle de l'alliance, et qui nous renvoie vraiment vers cette littérature qui existe déjà, ces promesses qui ont déjà été faites au peuple, dans les premiers livres, dans le Pentateuque. Et ça me semble important aussi de voir que là, Dieu nous dit que finalement, c'est pas parce qu'il y a le temple que nécessairement il sera présent. Dieu n'est pas un objet qu'on peut enfermer dans un bâtiment. Il est vivant, il a une relation, et cette relation, elle a quand même des conditions qui sont claires. En tout cas, on ne peut pas forcer Dieu à faire des choses. Ce n'est pas parce qu'il y a le temple que nécessairement Dieu va être présent. Et on ne peut pas instrumentaliser le culte. Ce n'est pas parce qu'il y a le temple et qu'on va faire tout ce que Dieu a dit que nécessairement Dieu est contraint. Parce qu'on a fait bien dans les formes. Il y a un engagement, qui est un engagement moral, qui est important. Et ce n'est pas tellement le service en tant que tel qui compte, c'est le cœur qu'on y met. Donc ce que Dieu nous dit ici, c'est qu'il attend une fidélité intégrale, et non pas une fidélité extérieure seulement, parce qu'il y a le temple et parce qu'on a mis en place les rituels tels qu'ils y sont décrits. Et le centre du culte, ça restera toujours, je répète, mais ça me semble fondamental, le centre du culte, ça reste la fidélité. La splendeur formelle, elle n'est pas le gage de la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est vraiment marcher dans ses voies, être fidèle. Et cette foi, elle va se voir non seulement dans le sanctuaire, mais elle va se voir à l'extérieur. Parce que marcher dans ses voies, pratiquer les commandements, garder ses commandements, c'est pas quelque chose qui va forcément être uniquement pendant le culte. Ça va se voir aussi dans toute la vie du peuple et dans toute la vie de Salomon. Ça dépasse les limites de ce temple qu'on est en train de construire. Et le contrepoint qui vient plus tard dans la parole, alors là je fais un petit aparté, c'est que Jérémie, on sait, il a condamné le fait que on ait une foi dans le temple et pas tellement en Dieu, et que finalement cette pratique, elle se fasse sans justice. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 7 en particulier, mais on le trouve ailleurs, que ce service sans justice n'a pas de sens. Et puis dans Ézéchiel, on a carrément la gloire de Dieu qui quitte le temple à cause du péché. Et par absence de fidélité, finalement, Dieu finit par dire, je m'en vais. Parce que vous n'êtes plus dans cette pratique que j'avais demandée et dans cette fidélité que j'attends de vous. Et malgré tout, ça finit quand même par la mention du fait qu'il n'abandonnera pas le peuple. Et ça nous dit qu'au-delà des circonstances d'Israël, au-delà de cette infidélité et du départ de Dieu, du temple, cette gloire qui quitte le temple, eh bien une espérance demeure. Une espérance qui est une espérance messianique, et j'y viendrai dans ma dernière partie sur le fait que finalement Jésus-Christ est venu quand même répondre à cette attente finale et à cette promesse de rester au milieu du peuple. Donc, souvenons-nous de ces paroles qui viennent au milieu de ces longs passages de description et qui nous donnent vraiment une clé de pourquoi le temple, pourquoi ces descriptions, pourquoi ces détails. En fait, l'architecture, c'est une chose, mais Dieu nous dit bien, ce qui est important, c'est la parole que je donne au milieu. Et c'est bien là le cœur de ces quelques chapitres. Alors, ces chapitres, ils nous parlent aussi un peu de nous. Ils ne nous parlent pas que de Dieu. Et le temple, il est fait de mains d'hommes, aussi pour dire, ils nous disent, voilà, c'est des chapitres qui nous décrivent un petit peu la façon dont l'homme se comporte et de ce qu'il est. Alors, la première chose que j'ai noté dans cette de ces longs détails, je vous disais, hein, sur la choix à l'architecture, puis les ornements, c'est que finalement, il y a une certaine capacité quand même humaine et un zèle à fabriquer des choses qui sont non seulement en obéissance à Dieu et à ce qu'il voudrait qu'on fasse dans son temple, mais aussi ces beaux ouvrages d'art. Il y a un bon travail qui a été fait. Et on le voit dans la façon dont les hommes se mobilisent pour construire. Ils s'organisent, ils sont nombreux et ils se mettent, ils travaillent de façon structuré pour arriver à construire le temple. Et puis, on a des détails sur le travail de certains artisans, en particulier un qui s'appelle Hiram, qui vient de Tyr, mais qui n'est pas Hiram le roi de Tyr. C'est un homonyme. Il y a deux Hiram qui viennent de Tyr. Il y en a un, c'est le roi, et l'autre qui est un artisan. Et on a un certain nombre de détails sur ce qu'il fait. Alors, vous pourrez lire au chapitre 7 la façon dont il met son artisanat d'art au service de la construction de l'élaboration de tous les ustensiles et de tous les détails du temple. Et on a aussi des mentions de matériaux nobles qui sont utilisés pour construire le temple. Il y a du bois de cèdre, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de pierres qui sont utilisées, qui sont bien taillées avant d'être amenées, et en silence on les assemble, etc. Et c'est magnifique de voir à quel point finalement l'humanité est capable de faire ce que Dieu a demandé et de faire quelque chose de beau pour le service divin. Et ici, l'humanité, me semble-t-il, a donné quelque part le meilleur d'elle-même pour le service de Dieu. Et je trouve ça bien que la Bible aussi nous parle des artistes, des artisans qui sont là et qui participent à cette construction et qui font bien les choses, qui s'appliquent. Et je me disais, mais alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à nous-mêmes, puisque ça parle de nous, je vous disais. Mettre notre service, notre talent au service du temple. Eh bien, nous aussi, on le sait, Dieu nous a donné des talents, et on en parle régulièrement. Nous avons tous reçu des talents de la part de Dieu. Il y a des choses que l'on sait faire, il y a des choses que l'on fait bien, ou qu'on aimerait bien faire, et on peut travailler à bien les faire. Et en fait, l'Église, le corps de Christ, a besoin de vos talents, a besoin de nos talents aux uns et aux autres, elle a besoin de nos compétences. Et on les a, ces compétences, hein. Cherchez pas, vous les avez. Chacun, vous avez des compétences. Donc, on peut réfléchir à la façon de mieux les employer, et vous dire, on a besoin de vous. On a tous, l'Église a besoin, collectivement, nous avons besoin des talents des uns des autres. Alors, restons pas spectateurs et mettons ces talents au service de notre communauté déjà, et puis peut-être un peu plus loin. On a parlé de ça il n'y a pas très longtemps, comment on était d'abord ici à Antony, et puis on essayait d'aller un peu plus loin aussi pour parler à d'autres. Utilisons nos talents pour ça. Et puis, une deuxième chose qui me semble importante, j'en parlerai plus tard sur la façon d'utiliser ce temps, mais on en viendra sur les temps de construction dans un moment, c'est la slide d'après, je crois. Mais voilà, retenons que l'Église, qui est le temple de Dieu, a besoin des talents des artistes, des artisans que nous sommes. Bon, encore des détails sur l'or qui est utilisé pour les différentes parties. Mais alors voilà, la deuxième chose que j'ai retenue comme idée sur la façon dont ce chapitre nous parle de l'humanité, il y avait le côté positif, qui est le zèle, le travail, l'excellence qui est mise au service de Dieu. Et malheureusement, ce chapitre nous parle aussi un petit peu d'orgueil et de priorités qui sont inversées. Je vous disais tout à l'heure, il y a des détails sur les temps de construction. Et le temple de Dieu, on a mis 7 ans à le construire. Donc c'est déjà un temps conséquent, 7 ans, un temps parfait. Et finalement, Salomon, en parallèle, veut faire construire son palais. Mais il faut bien faire les choses. Alors on met 13 ans, parce qu'il faut que ça soit très bien. Et donc, on voit qu'il met plus de temps à faire construire son palais. Et je me disais, est-ce que ça peut nous parler aussi du, quelque part déjà, du péché de Salomon qui se manifeste dans l'inversion des priorités. Il va mettre plus de temps, plus d'efforts, travailler plus sérieusement à se faire un beau palais plutôt qu'à la maison de Dieu. Alors, il a commencé par le temple, on peut dire qu'il avait quand même bien fait les choses au départ. Il avait la priorité, l'idée initiale, c'est quand même de commencer par le temple et puis ensuite le palais. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais il met pratiquement le double du temps à faire son propre palais après avoir fait la maison de Dieu. Et passer plus de temps à soi qu'à Dieu, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut faire écho à nos vies? Un déséquilibre qui est finalement déjà présent chez Salomon, à chercher sa propre gloire. La gloire du roi est plus importante que la gloire de Dieu. Et puis, ça nous parle d'idolâtrie. Alors certes, on ne met pas un faux dieu dans le palais du roi, mais le roi s'y met lui-même. Et finalement, il utilise ses ressources, ses talents. Il a du pouvoir, il a du temps, il a de l'argent. Et il les utilise non pas seulement pour Dieu, mais il les utilise aussi pour sa propre élévation. Et est-ce que parfois, on n'a pas tendance à utiliser ce qu'on a, du temps, de l'argent peut-être, du pouvoir, des relations, plutôt pour notre propre élévation, au lieu de chercher d'abord la gloire de Dieu. Et je disais à l'instant, on peut réfléchir à ces temps de construction. Quelle est la proportion de mon temps? Quelle est la proportion de mon énergie? Il n'y a pas longtemps, je vous disais, quand on parlait de ce qui nous empêchait parfois d'avancer, on a une énergie qui est finie. Et c'est quelque chose auquel je pense souvent. Je me dis, mais on est humain, trop humain. On a un temps fini, on a une énergie qui est finie, on a des ressources qui sont finies. Comment est-ce qu'on les utilise? Posons-nous des questions. Il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, mais je ne peux pas tout faire. Et il y a un moment, il y a forcément des choix que je peux faire, parce que la journée, elle n'a que 24 heures, parce que j'ai besoin de dormir, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et quel est le temps que je consacre à ce qui est utile et ce qui est spirituel par rapport au temps que je consacre à ce qui est terrestre et qui n'est pas forcément inutile, mais qui me détourne ou qui peut-être, Elodie me disait, mais peut-être que je travaille trop. Il y a aussi des divertissements qui ne sont pas mauvais en soi, mais quel est le temps que j'y consacre? Je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir, qu'il ne faut pas se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Il y a des choses que on sait bien, on en a besoin, on a ce caractère, mais quel est le temps que j'y consacre? Et puis le confort. Il y a des choses qui sont agréables et qui sont bonnes, ou en tout cas qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais je peux aller jusque-là. Et est-ce que j'ai besoin encore ça, ou est-ce que ce temps encore, et bien finalement je vais faire un choix à ce moment-là. Et ce curseur, c'est à vous et à chacun, à moi. Je veux dire, c'est personnellement, on le détermine. Je vais pas vous dire comment je chronomètre ma vie pour que vous me disiez, c'est pas bien à ce moment-là, t'aurais pas dû faire ça. Peut-être que je devrais, mais j'imagine que vous avez aussi le même questionnement et que chacun peut se poser des questions dans notre temps limité, dans dans nos ressources finies. Comment est-ce qu'on les organise? Est-ce que je passe le double de temps à mon confort, à ma gloire, plutôt qu'à le consacrer à Dieu? Chacun pourra s'interroger. Mais essayons de réévaluer nos priorités et de voir comment, de façon cohérente, organiser notre temps, notre argent, nos ressources. Et comment est-ce que notre temps de qualité, on le consacre à des choses spirituelles plutôt qu'à autre chose. Voilà quelques réflexions par rapport à la façon dont Salomon avait agi et qui peuvent nous inspirer aussi pour notre vie aujourd'hui. Et puis, je disais, le temple est fait de main d'homme et je disais, Dieu, tout à l'heure, nous a déjà dit quelque chose de la façon dont il voyait les priorités. Et un grand danger pour l'humanité, si on regarde les choses non pas tellement du point de vue de Dieu là, mais du point de vue de l'humanité, ça a été d'avoir cette illusion que le temple allait nécessairement conduire à une sorte de confort dans leur vie de tous les jours. Moi, si nous avons le temple, en fait, tout va bien. Nous ne craignons rien. Et pourtant, voilà, la parole nous dit bien et régulièrement que ce n'est pas tellement le culte, ce n'est pas tellement le temple qui était important, mais c'est bien la justice, la réforme du cœur qui était désirée par Dieu. Et un culte sans réforme du cœur, Dieu n'en veut pas. Et j'ai noté ces quelques versets que vous pourrez relire et qui me semblent d'une violence assez forte dans les paroles, mais en même temps une violence nécessaire pour réveiller un coup qui est porté par Dieu, qui dit, mais je méprise vos fêtes. Vous vous rendez compte de dire ça? C'est lui qui avait ordonné les fêtes. C'est lui qui avait donné ces paroles-là. Et comment il en arrive à dire, je les hais? Et il lui dit, je ne flairerai pas de bonne odeur dans vos assemblées solennelles. Si vous m'offrez des holocaustes, vos offrandes de gâteaux, je ne les agréerai pas, je ne les regarderai pas. Et tout ça, on se dit, mais en fait, pourquoi? Eh bien, parce que le peuple faisait des rituels et puis le cœur n'y était plus. Est-ce que notre cœur est toujours, est-ce que mon cœur est bien présent dans le culte que je rends à Dieu? Est-ce qu'il y a une part de rituel qui est devenue vide? À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié d'holocaustes, de béliers, de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux et des agneaux et des boucs. Et la deuxième partie, à la fin de ces versets d'Ésaïe, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions. Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Apprenez à bien faire, on apprend à bien faire. Recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Voilà un autre projet que Dieu a pour nous. Donc le temple, oui, il était là, il a été construit, il avait son sens, mais son sens, au final, il est dans le culte juste, le culte droit qu'on fait à Dieu, le culte honorable. Le culte auquel Dieu prend plaisir, qui est d'abord de prendre soin les uns des autres, qui est d'abord de se regarder soi-même, de voir notre péché, de demander pardon, de demander à être lavé, de confesser notre péché, de savoir que Dieu nous lave et nous permet d'avancer pour faire le bien qu'il met en nous. Il produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui va nous inspirer ses bonnes œuvres et c'est lui qui va nous conduire à apprendre pas à pas à bien faire. Il peut nous, voilà, nous conduire vers ça. Et le temple nous a permis de regarder les choses en face. Quand Dieu nous donne, voilà, les versets qu'on a lus tout à l'heure en disant, bah, marchez dans ces choses que je vous donne, marchez dans mes commandements, gardez ces commandements, eh bien, ça nous permet de voir qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de faire ça. On ne peut pas satisfaire l'exigence divine. Et notre insuffisance, elle est rendue claire face à ces versets. Alors on a besoin d'un sauveur. Et c'est justement ce dont nous parle aussi le temple, de cette promesse d'un sauveur qui vient être le temple parfait, qui vient incarner ce temple et nous rendre concrètement la signification de ce que Dieu voulait au départ. Et ça, Jésus le dit très clairement dans sa parole. On parle de lui en disant que la parole devint chair et habita au milieu de nous. Ce même mot de l'habitation, Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Eh bien, Jésus est venu habiter au milieu de nous. Et puis, quand Jésus parle de lui-même, il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et il parlait du temple de son corps. C'est lui, le temple, le véritable temple. C'est lui qui vient habiter et qui vient révéler Dieu au milieu de son peuple.
Le Christ est vraiment l'accomplissement de tout ce dont nous parle, tous ces détails. C'est lui qui vient au final pour être ce temple au milieu de nous. Et puis, il est le temple, mais il est aussi celui qui vient être le grand prêtre, et puis celui qui vient être le sacrifice. Et ça nous parle de tous ces arrangements qu'on avait, vous relirez tous les ustensiles, etc., pour bien faire les choses, pour être dans un culte, je vous disais tout à l'heure, qui est ordonné, qui est bien structuré par Dieu. Mais tout ça n'a pas de sens si on n'est pas transformé. Et quand je vous disais, il y a tous ces versets aussi dans l'Ancien Testament où Dieu nous reproche finalement, reproche à l'humanité de ne pas être arrivé à bien faire les choses, eh bien, Jésus lui-même montre que il y avait une limite à ce culte sacrificiel, une limite à tout ce qu'on pouvait offrir en termes de sacrifice à Dieu, et qu'on attendait ce sacrifice, cette victime parfaite qu'on a célébrée tout à l'heure. C'est Jésus-Christ lui-même qui est cette victime parfaite. Et c'est lui qui vient s'offrir en tant que grand prêtre, souverain sacrificateur. Je ne relirai pas tous ces versets de l'Épître aux Hébreux, mais je vous ai mis les références pour que vous les retrouviez. Et je sais qu'on en parle régulièrement, tellement c'est important, c'est crucial, c'est central dans notre culte de nous rappeler que Jésus-Christ est celui qui vient offrir le sacrifice et celui qui est le sacrifice. Et là où le temple nous parlait de l'accès à Dieu, pendant un temps, on avait le temple qui manifestait la présence de Dieu à Jérusalem et on pouvait avoir accès à Dieu grâce à la présence du temple. Eh bien, Christ, c'est l'accès définitif par son œuvre. Et maintenant, on l'a rappelé aussi ce matin, nous avons accès directement à Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Alors oui, la promesse d'habiter parmi son peuple, elle est accomplie. Elle est accomplie en Jésus-Christ au moment où il était présent sur la terre. Mais aujourd'hui, eh bien, Dieu habite en nous. C'est ce que dit par exemple l'Épître aux Éphésiens. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. On est une habitation de Dieu par l'Esprit. Nous sommes le temple. Et nous le sommes individuellement, mais nous sommes aussi collectivement en Église. Et il ne faut pas perdre cette dimension importante de l'Église comme rassemblement et qui prend un sens spirituel particulier. Il y a l'individu, il y a en tant que personne, nous avons un rôle et nous sommes aimés par Dieu personnellement, mais nous sommes aussi aimés parce que nous formons une Église. Et il y a une dimension collective que nous sommes invités à ne pas perdre de vue. Et Dieu nous en parle souvent dans les Épîtres. Et puis, j'ai relevé aussi cet autre verset. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc Jésus est venu habiter, l'Esprit habite aussi en nous. Alors, prenons soin aussi de ce temple. Prenons soin de ce temple. Je vous disais tout à l'heure, par notre service, on peut participer à rendre belle cette Église et à œuvrer avec Dieu. Et puis, si on prend ça individuellement, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur la façon dont moi je me pose des questions sur les priorités que je mets dans ma vie, il y a aussi comment je cherche à vivre de façon à refléter la gloire de Dieu, comment je cherche dans ma vie à avoir une vie de sainteté, à rejeter ce qui qui n'aurait pas sa place dans le temple, on va dire. Et plutôt refléter la gloire de celui qui réside dans le temple, c'est-à-dire Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Et donc chacun, réfléchissons à comment nous prenons soin de ce temple aussi, donc nous-mêmes et puis l'Église. Pour conclure, et j'ai pas fait trop long parce que je sais le programme chargé, comment conclure cette étude? Et quand vous relirez ces trois chapitres avec cette richesse de détails, repensons au fait que le cœur vient avant la forme et que Dieu a bien insisté d'abord sur le fait de marcher d'abord avec lui et que c'est ça qu'il attendait et que cette vraie religion que Dieu veut, ce vrai lien qu'il veut, c'est d'abord une orientation du cœur. Et puis la façon dont le sanctuaire n'est pas un pare-feu quelque part pour Israël, c'est pas un pare-feu moral,
qui remplacerait l'obéissance, mais que ça nous implique, au contraire, ça impliquait déjà le peuple et ça nous implique aujourd'hui, cette obéissance en réponse à la présence de Dieu, et puis cette promesse de Dieu qui s'accomplit, d'habiter en nous, d'habiter avec nous. C'est cette promesse qui trouve toute sa plénitude en Jésus-Christ. Et puis ces trois réflexions à avoir peut-être dans la semaine. Quels sont nos temps de construction? Comment on organise notre temps, nos ressources? Comment on est artisan de Dieu, artisan pour Dieu? Et comment nous prenons soin du temple, à la fois de l'Église et puis de notre corps?